Chapitre 5. De la méthode, suivie par Montesquieu. Tant que la science sociale n'était qu'un art, les écrivains sociaux usaient principalement de la déduction. De la notion générale de l'homme, ils tiraient la forme de société qui convenait à la nature humaine et les préceptes qui devaient être observés dans la vie en commun. Il est inutile d'énumérer les défauts de cette méthode. La déduction, même dans l'art, ne nous permet d'obtenir que de simples hypothèses. Par la seule force de la raison, personne ne peut établir l'utilité d'un précepte s'il n'a pas mis cette utilité à l'épreuve de l'expérience. Mais c'est surtout dans la science, lorsqu'elle est distinguée de l'art, que la déduction doit nécessairement n'occuper que le second rang, du moins dès qu'il est question de réalité et non de notions abstraites comme en mathématiques. Sans doute, la déduction nous fournit des idées qui dirigent notre recherche à travers les obscurités des choses. Mais tant que ces idées n'ont pas été confirmées par l'observation, on ne peut savoir si elles expriment vraiment la réalité. Il n'est pas d'autre moyen pour découvrir les lois de la nature que d'étudier attentivement la nature elle-même. Disons mieux, il ne suffit pas de l'observer. Il faut l'interroger, la tourmenter, la mettre à l'épreuve de mille manières. La science sociale, puisqu'elle a des choses pour objet, ne peut donc employer avec succès que la méthode expérimentale. Or, il n'est pas facile d'adapter cette méthode à notre science parce qu'il n'est pas possible d'expérimenter dans les sociétés. Il y a cependant un biais qui permet de surmonter la difficulté. Pour découvrir les lois de la nature, rien d'autre en effet n'est nécessaire que de pouvoir instituer entre les différentes formes d'une même chose des comparaisons suffisamment nombreuses. Par ce moyen, les rapports constants et immuables qu'exprime la loi se trouvent séparés des autres, c'est-à-dire des rapports passagers et fortuits. Tout l'essentiel de l'expérimentation consiste simplement à faire varier les choses à volonté, de sorte qu'elles offrent une large et féconde matière à la comparaison. Mais rien ne s'oppose à ce que l'on compare des faits sociaux de même genre, tels qu'ils se présentent dans des sociétés différentes, et à ce que l'on note ceux d'entre eux qui concordent constamment, ceux qui disparaissent simultanément, ceux qui varient en même temps et selon le même rapport. Ces comparaisons, bien qu'elles aient cet inconvénient de ne pouvoir être répétées indéfiniment, peuvent cependant jouer dans la science sociale le rôle de l'expérimentation. Quoique Montesquieu n'ait nulle part traité cette question, il a compris instinctivement la nécessité de cette méthode. S'il rassemble tant de faits empruntés à l'histoire des différents peuples, ce n'est pas dans un autre dessein que de les comparer entre eux et, par le moyen de cette confrontation, de trouver leurs lois. En fait, il est évident que l'ouvrage tout entier consiste en une comparaison des lois qu'observent les peuples les plus divers, et l'on peut dire véritablement que, par ce livre, Montesquieu a inauguré un nouveau genre d'étude que nous appelons aujourd'hui le droit comparé. Mais si chez lui la déduction a fait place à l'expérience, elle occupe encore beaucoup plus d'espace que la science ne le comporte. Dès la préface, il avertit lui-même le lecteur qu'il a voulu traiter la science sociale d'une façon quasi mathématique, qu'il a posé des principes d'où les lois particulières des sociétés s'en suivissent logiquement. Il a compris, il est vrai, qu'il est indispensable de tirer ces principes de l'observation du réel, mais il croit que toute la science y est comme impliquée, si bien que, dès qu'on y est parvenu, elle peut être achevée par la seule déduction. Et il n'est pas douteux qu'il ait bien entrepris de procéder par cette voie et par cette méthode. Remarquons d'abord de quelle façon il emploie la méthode inductive. Il ne commence pas par rassembler tous les faits qui ont trait à la question, par les rapporter pour qu'on puisse les examiner et les apprécier objectivement. Le plus souvent, il s'efforce de prouver par la déduction pure l'idée qu'il a dans l'esprit. Il montre que cela est enveloppé dans la nature ou, si l'on veut, dans l'essence de l'homme, de la société, du commerce, de la religion. En un mot, dans la définition des choses dont il s'agit. C'est ensuite seulement qu'il expose les faits qui lui paraissent confirmer l'hypothèse. Mais si l'on tient pour assurer que l'expérience seule peut établir quels sont les rapports des choses, on ne subordonne pas l'expérience à la déduction. On ne donne pas la primauté aux arguments qu'on regarde comme de peu de valeur pour la démonstration et dont on se défie. Mais on commence par observer les choses. Et ce n'est qu'ensuite qu'on interprète déductivement ce que l'on a observé. D'ailleurs, si l'on examine les démonstrations même de Montesquieu, on s'aperçoit facilement que toute leur portée consiste dans la déduction. Sans doute, il confirme le plus souvent par l'observation les conclusions qu'il a ainsi tirées. Mais combien faible est toute cette partie de son argumentation? Les faits qu'il rapporte en les empruntant à l'histoire sont exposés brièvement et sommairement. Et il ne se soucie pas beaucoup de les établir tels qu'ils sont en réalité, même s'ils peuvent offrir matière à controverse. Il les énumère sans ordre et pêle-mêle. S'il affirme qu'il y a un lien causal entre deux faits, il ne s'applique pas à montrer que, dans tous les cas ou du moins dans la plupart, ces faits apparaissent simultanément, disparaissent simultanément ou varient de la même façon. Il lui suffit de pouvoir alléguer quelques exemples qui cadrent à peu près avec la loi supposée. Il lui arrive même d'affirmer de toute espèce ce qu'il n'a observé que sur une seule société, soit, par exemple, la séparation des pouvoirs. Bien qu'on ne la trouve que chez les Anglais, il dit qu'elle est le propre de la monarchie, et il déclare que la liberté est une conséquence de cette séparation, quoiqu'il ne sache pas si elle existe vraiment chez les Anglais eux-mêmes. En un mot, au lieu de se servir de la déduction pour interpréter ce qui a été prouvé par l'expérience, il emploie plutôt l'expérience à éclaircir, à l'aide d'exemples, les conclusions de la déduction. Aussi, quand la déduction est achevée, considère-t-il que la démonstration, presque tout entière, l'est aussi. Allons plus loin. Selon l'opinion de Montesquieu, il existe, comme nous l'avons déjà dit, certaines institutions qui, bien qu'existant ou ayant existé dans toutes les sociétés du même genre, ne leur conviennent cependant pas. Mais cette affirmation ne repose et ne peut reposer que sur une seule raison, savoir que ces institutions ne peuvent, selon lui, se déduire des principes qu'il a antérieurement posés. Il montre en effet qu'il y a contradiction entre l'institution de l'esclavage et la définition de la République. De même, il déteste le gouvernement despotique parce que celui-ci répugne logiquement à l'essence de l'homme et même de la société telle qu'il la conçoit. Il peut donc arriver dans certains cas que la déduction prévaille même contre l'observation et l'expérience. Si donc, chez Montesquieu, l'induction fait sa première apparition dans la science sociale, elle ne s'éloignait pas encore de la méthode contraire et se trouve altérée par ce mélange. Si notre auteur a ouvert une voie naturelle, il n'a pas su abandonner les sentiers battus. Cet équivoque dans la méthode est une conséquence de l'équivoque dans la doctrine que nous avons signalé ci-dessus. Les formes normales de la société sont comprises dans sa nature. Elles peuvent se conclure de la définition de cette nature. Ce sont ces nécessités logiques que Montesquieu appelle des lois. Les choses étant à ce point apparentées à notre raison, la raison suffit à les interpréter. On s'étonnera peut-être que cette nature intime des choses apparaisse avec une telle clarté qu'on puisse la connaître et la définir dès le début de la science, alors qu'au contraire, elle semble ne pouvoir être déterminée qu'au terme de la science plutôt qu'à son commencement. Mais ce résultat s'accorde bien avec les principes de Montesquieu. De même que le lien qui existe entre les faits sociaux et l'essence de la société est un lien rationnel, de même, cette essence elle aussi, qui est la source d'où émane toute cette déduction, est de nature rationnelle. C'est-à-dire qu'elle consiste dans une notion simple que la raison est capable de saisir d'un rapide coup d'œil. D'un mot, Montesquieu n'a pas suffisamment compris à quel point, comme dit Bacon, la finesse des choses dépasse la finesse de l'esprit humain. C'est ce qui explique qu'il ait une telle confiance dans la raison et la déduction. Nous ne prétendons pas d'ailleurs que les choses sociales soient par elles-mêmes absurdes, mais s'il y a en leur fond une certaine logique, cette logique est autre que celle à laquelle se conforme notre raisonnement déductif. Elle n'a pas la même simplicité. Peut-être suit-elle d'autres lois. Aussi est-il indispensable que ce soit les choses elles-mêmes qui nous en instruisent. Mais la confusion dont nous parlons dépend d'une autre cause encore. Les lois de la société, comme nous avons vu, peuvent être violées. Elles ne peuvent donc être établies à partir de la seule observation des choses, ni même de leur comparaison. Ce qui est, n'est pas nécessairement rationnel. Mais les lois n'ont rien qui ne soit rationnel. C'est pourquoi, même si quelque chose est prouvé par l'histoire, on ne pourra être absolument certain que cela est vrai. Il y a des défauts qui se rencontrent dans toutes les sociétés du même genre. La forme normale de ces sociétés ne peut donc être décrite d'après ce que l'on y trouve. Si l'on ne peut saisir fidèlement la nature des choses par l'expérience, ce n'est pas par l'expérience seule qu'on apprendra ce qui résulte de cette nature. Il ne reste donc d'autre voie que celle-ci. Chercher à atteindre cette essence même, la définir, et de cette définition, déduire ce qu'elle implique. Donc concluons pas que l'observation soit pour cela inutile, mais qu'elle doit être tenue en quelque suspicion tant qu'elle n'a pas été confirmée par l'expérience et que, si par hasard elle ne peut être ainsi confirmée, elle doit être rejetée. On voit combien il est indispensable en science sociale de découvrir dans les choses elles-mêmes un signe précis permettant de distinguer la maladie et la santé. Si en effet ce signe fait défaut, on se réfugie nécessairement dans la déduction et on s'éloigne du réel.